Le journal Loïc Barrière. Le nouvel an berbère célébré dans les pays d'Afrique du Nord et au sein de la diaspora berbère à travers le monde. Entretien avec l'écrivain Youssef Zirem, auteur d'une histoire de la Kabylie. Pour faire face à une reprise de l'épidémie de Covid, la Tunisie impose un couvre-feu nocturne pendant 2 semaines. La mort d'un Palestinien de 80 ans près de Ramallah, il avait été abandonné avec des menottes par l'armée israélienne. 6 morts dans un attentat commis par les Chebabs dans la capitale somalienne Mogadiscio. La France annonce que les Émirats Arabes Unis vont participer au fonds d'aide mis en place avec l'Arabie Saoudite pour aider la population libanaise. Réuni aujourd'hui, le bureau du CFCM a discuté du forum de l'islam de France que le gouvernement français veut mettre en place. Une mosquée de Cannes fermée pour des propos antisémites et son soutien à des associations dissoutes. Enfin, l'avant-première de Memory Box à l'Institut du Monde Arabe, un film de Johanna Hadji Thomas et Khalil Jorej qui seront nos invités. Un Palestinien de 80 ans a été retrouvé mort dans un village du nord de la Cisjordanie occupée après avoir été détenu et abandonné menotté par des soldats israéliens. C'est ce qu'ont annoncé des responsables palestiniens. Ce drame a eu lieu dans un village au nord de la ville de Ramallah. Selon le ministère palestinien de la Santé, le vieil homme était mort d'une crise cardiaque avant son arrivée à l'hôpital. En Somalie, un attentat, la voiture piégée à Mogadiscio, au moins 6 personnes tuées. Et l'explosion a été revendiquée par les Chebabs, principal groupe djihadiste dans la région. Ce 12 janvier est chômé en Algérie à l'occasion du Nouvel An berbère, une fête célébrée par les berbères du monde entier, et notamment dans toute l'Afrique du Nord. On écoute l'écrivain Youssef Zirem, dont le livre « Histoire de la Kabylie » a été réédité aux éditions Yoran.
Eh bien, les Berbères forment un peuple très ancien, donc qui vit dans toute la partie nord de l'Afrique, hein, donc de l'Égypte jusqu'au Maroc depuis des siècles. Et donc, et comme tout peuple, et il sait que les saisons varient. Et donc, lui aussi, il a inventé un calendrier, et c'est principalement un calendrier agraire, hein, parce qu'à l'époque, donc aux époques reculées, l'agriculture était un peu l'essentiel de l'activité humaine. Donc, ce nouvel an est fêté aujourd'hui, le 12 ou le 13 janvier, dans tous les pays d'Afrique du Nord. En Algérie, c'est un jour férié depuis quelques années, grâce aux luttes de toutes ces générations qui se sont battues pour se réapproprier son histoire et son identité. Voilà.
Comment se célèbre le Nouvel An berbère dans les familles, notamment en Kabylie, que vous connaissez particulièrement?
Oui, je viens de Kabylie, mais il faut dire que ce nouvel an est célébré dans toute l'Afrique du Nord, hein, pas seulement en Kabylie. Alors c'est d'abord une fête, les rituels changent un petit peu, mais c'est d'abord une fête où il y a un repas copieux, voilà, hein, ce n'est pas toujours le cas, hein, donc dans ces régions un peu où l'existence est assez difficile, donc il y a toute la famille qui se réunit, il y a des rites un peu initiatiques, par exemple les enfants sont coiffés à ce moment-là, et on leur espère un avenir meilleur. Au fait, on s'échange les vœux de bonheur de toute l'année qui arrive, en espérant le meilleur. Voilà pour le rituel. Et cela ne date pas de ces quelques années où les gens se sont réappropriés, hein, donc les traditions amazir, hein. Amazir, ça veut dire berbère dans la langue des berbères eux-mêmes. Donc, pour exemple, Bible, on a exhumé un long poème d'un grand poète andalou qui s'appelle Ibn Khuzm, qui est mort en 1160. Et donc, déjà, quand les Almoravides avaient leur domination sur une grande partie de l'Afrique du Nord et de l'Andalousie, ce poète nous racontait, dans une belle langue arabe, comment était célébré ce nouvel an amazigh.
Est-ce que le nouvel an berbère est un moment important aussi pour réaffirmer l'identité du peuple berbère ?
Probablement, mais pas que, parce que ça fait partie de la vie de chaque peuple. Hein. Je crois et j'espère que tous les peuples du monde peuvent avoir des relations privilégiées en s'écoutant les uns et les autres, en s'imprégnant des choses qu'il y a de meilleur chez les uns et les autres. Cette fête berbère, effectivement, c'est un clin d'œil à la tradition, c'est un clin d'œil à l'identité, mais c'est aussi un moment de partage, un moment d'humanité.
Et c'est un moment aussi pour faire connaître la culture berbère à travers le monde ?
Oui, probablement encore une fois, parce qu'effectivement, il y a aujourd'hui beaucoup de diaspora berbère, hein, que ce soit en Europe, que ce soit en Amérique, et qui effectivement, autour souvent d'associations culturelles, célèbrent elles aussi, ces diasporas, cette fête, et parfois, effectivement, pour les autres peuples non berbères, c'est une occasion de voir un peu qu'est-ce que c'est que cette culture. Hein, samedi passé, il y a eu un défilé et même un carnaval pour célébrer à Paris ce nouvel an berbère et c'était une réussite malgré quand même des préoccupations sanitaires délicates.
Alors quels sont vos vœux aujourd'hui, Youssef Zirem, pour les berbères, vous qui avez écrit Histoire de la Kabylie aux éditions Yoran?
Eh bien, moi, je souhaite bonne fête et je souhaite le meilleur à tous les Berbères, mais aussi à tous les habitants de la Terre. Moi, je suis un passionné des cultures, des traditions de tous les pays du monde. Et la culture berbère est une partie de cette culture des femmes et des hommes de la Terre. Et les hommes et les femmes de la Terre peuvent cohabiter en harmonie et vivre heureux. En tout cas, c'est ce que j'espère.
L'écrivain Youssef Zirem, il est l'auteur de Histoire de la Kabylie aux éditions Yoran. Il vient également de publier Chaque jour est un morceau d'éternité, journal parisien 2005-2015 aux éditions Douro. Le gouvernement tunisien a décidé d'imposer un couvre-feu nocturne pendant au moins 2 semaines. Décision prise pour faire face à une reprise de l'épidémie de Covid-19 dans le pays. Les autorités demandent aussi aux Tunisiens de reporter ou annuler tous les rassemblements ou manifestations publiques, que ce soit dans les espaces ouverts ou fermés. Les Émirats Arabes Unis vont se joindre au fonds d'aide mis en place par la France et l'Arabie Saoudite pour la population libanaise. C'est ce qu'a annoncé Jean-Yves Le Drian. Le Liban est plongé dans une grave crise économique. Hier, le pain manquait dans la plupart des boulangeries. Réuni aujourd'hui, le bureau du CFCM a discuté du forum de l'islam de France que le gouvernement français veut mettre en place. À l'issue de cette réunion, le CFCM a publié un communiqué dans lequel il propose de faire évoluer la représentation du culte musulman pour lui donner un nouvel élan en s'appuyant sur les acteurs du terrain au niveau des départements, qu'ils soient affiliés ou non à une fédération composant le CFCM. Une assemblée générale extraordinaire du CFCM doit avoir lieu prochainement pour discuter de l'avenir de la représentation de l'islam de France. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a fermé une mosquée à Cannes en raison notamment de propos antisémites. Le ministre de l'Intérieur reproche aussi aux responsables de cette mosquée d'apporter leur soutien au CCIF et à Baraka City, des associations dissoutes fin 2020. L'invité de Pluriel ce soir à 19h et 23h est Alexandra Spinner, conseillère régionale LR d'Île-de-France et coprésidente des femmes avec Valérie. Elle évoque notamment la politique que mettra en place Valérie Pécresse sur la question du handicap si elle est élue présidente de la République.
Le handicap, c'est une des grandes causes de Valérie Pécresse, c'est une exigence pour une grande nation comme la France. Elle veut revenir à l'esprit et à l'ambition de la grande politique du handicap qui avait été conduite par le président Jacques Chirac. Et elle a conscience que nous avons besoin de plus de solidarité, plus d'autonomie pour garantir la dignité des personnes et précisément aider les familles qui ont en charge un enfant en situation de handicap et permettre à cet enfant de continuer de bénéficier de la pension des parents, c'est évidemment quelque chose qui soulage les familles qui sont dans l'angoisse de laisser leur enfant seul. Et on sait très bien que ce sont des enfants qui sont à l'âge adulte très difficilement prise en charge, et nous sommes encore très en deçà de ce qu'un grand pays comme le nôtre devrait proposer à des familles qui vivent ce drame au quotidien.
Et sur la question du handicap, il faudrait améliorer le statut des assistants d'élèves en situation de handicap. Ce sont souvent des personnes mal payées, pas assez formées et en contrat précaire.
Évidemment, évidemment, ce sont les grands oubliés du Ségur de la santé. Valérie Pécresse veut mettre en œuvre la scolarisation en milieu ordinaire jusqu'à la fin du collège, à chaque fois que c'est possible. Et tous les dispositifs de formation seront largement ouverts aux personnes en situation de handicap, parce que l'inclusion passe par l'accès aussi à la vie professionnelle. Et ces qui sont aux côtés d'élèves en situation de handicap sont évidemment des éléments essentiels du dispositif. Donc il n'est pas question de les laisser dans une situation de précarité extrême.
Alexandra Spinner, conseillère régionale LR d'Île-de-France et coprésidente des femmes avec Valérie, elle est l'invitée de Pluriel à 19h et 23h. Faute d'une dose de rappel, entre 500 000 et 700 000 personnes pourraient perdre leur passe sanitaire le 15 janvier, selon Olivier Véran. Mais le chiffre est sans doute surestimé, précise le ministre de la Santé, puisque parmi eux, beaucoup n'ont pas mis la preuve de leur infection dans l'application Tous Anti-Covid. La CAN 2022 au Cameroun, le Mali a remporté son match contre la Tunisie 1-0. Enfin, une avant-première à l'Institut du Monde Arabe. Ce mercredi est présenté Memory Box, le film de Johanna Hadjitoma et Khalil Jorej, un film qui retrace le parcours d'une famille de la diaspora libanaise installée au Canada. Entretien avec Johanna Hadjitoma et Khalil Jorej.
Il y a plusieurs manières très différentes de raconter Memory Box, en fait. On peut partir parfois, on raconte la genèse du film, parce que le film est basé sur des cahiers et des lettres et des cassettes que j'ai envoyées à ma meilleure amie dans les années 80. Elle vivait en France, je vivais au Liban. Et au moment où elle a dû partir à cause de la guerre civile, on s'est promis de s'écrire tous les jours. Et on s'est écrit tous les jours de 82 à 88, 1982-1988. Des années plus tard, on s'est un peu perdu de vue pendant à peu près 25 ans. Et quand on s'est retrouvés, on s'est échangé tous ces cahiers, ma correspondance et la sienne. Et j'ai eu accès tout d'un coup à mon adolescence dans les moindres détails. Et notre fille Alia, qui était elle-même adolescente à l'époque, avait très envie de lire tous ces cahiers. Avec son père Khalil, on s'est dit que c'était peut-être pas une très bonne idée. Mais ça nous a donné justement l'idée du film. Et on peut résumer Memory Box en disant que c'est un film qui se passe autour dans une famille, en fait, au Canada, où tout d'un coup, le jour de Noël, arrive une grande caisse, une boîte avec à l'intérieur des cahiers, des cassettes des lettres que la maman d'Alex Maya a écrites dans son adolescence à sa meilleure amie. Et Maya ne veut pas ouvrir cette boîte, mais sa fille Alex va plonger dans cette correspondance en secret et imaginer la vie tumultueuse de sa, entre imagination en fait et réalité, puis, revoir comme ça, relire la vie de sa mère.
La sortie de votre film, qui a été salué dans différents festivals, est en soi un miracle. Un film libanais qui sort en France en pleine pandémie, en pleine crise politique au Liban, et vous avez été vous-même touché directement par l'explosion du port de Beyrouth.
On habite à Jemmaïzé, notre bureau, notre studio, la société de production à Bout. C'est un peu le quartier qu'on a, dans lequel on a choisi de vivre il y a à peu près une quinzaine d'années. Et on était, donc c'est à 400 mètres du port, et on était là-bas le jour de l'explosion. Et c'est un miracle que Joanne a et des petites blessures, mais parce que en fait ce qui est hallucinant avec cette explosion, c'est qu'on se sent toujours chanceux par rapport à d'autres, étant donné que c'est une explosion qui était incommensurable, où tellement de gens ont été blessés, tués, voilà. Donc c'est
en fait, le film a été tourné en 2019, juste avant l'effondrement de, économique et politique au Liban. Et on a monté tout ce film durant cette crise et on l'a terminé juste un petit peu avant, même un petit peu après l'explosion, en fait, en automne, à l'automne. Et c'est vrai que c'était un peu surréaliste parce que pour qui a vécu un peu la guerre du Liban, il y a beaucoup d'échos entre la dévaluation de la livre des années 80 et ce qui se passe aujourd'hui, le découragement, la tristesse. Donc c'était, il y avait des échos extrêmement troublants avec le film. Mais le film raconte aussi justement toutes ces histoires de transmission, qu'est-ce qu'on transmet à nos enfants, comment on raconte l'histoire, pourquoi c'est important de parler du passé pour pouvoir vivre notre présent justement.
Les réalisateurs Johanna Djitoma et Khalil Jorej, leur film Memory Box est projeté à l'Institut du Monde Arabe ce mercredi avant une sortie nationale le 19 janvier. Cette édition est terminée. Merci d'être fidèle à Radio Orient.